Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Je reçois aujourd'hui, comme je vous l'avais laissé entendre, à nouveau Bertrand Vergely. Et je dédie cette émission à Jean Marny, mon grand-père chéri, qui fut aussi, mais vous le savez, le merveilleux et aimé directeur de l'Opéra de Marseille. Je lui dédie cette émission, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est parti au ciel en mars. Bertrand Vergely, cher Bertrand, bonjour.
Chère Isabelle, bonjour.
Alors, on se retrouve aujourd'hui pour continuer ce riche livre sur la morale. Le livre s'appelle « La vraie morale se moque de la morale ». Cher Bertrand, pourquoi ce titre ?
Eh bien, ce titre, parce que je voulais au départ parler des vertus à la suite d'une conférence que j'avais faite sur ce thème. Et puis, en réfléchissant sur les vertus et n'arrivant pas vraiment à comprendre ce que je voulais vraiment dire, je me suis souvenu de cette parole de Pascal que j'avais adorée et qui disait non seulement la vraie morale se moque de la morale, mais la vraie éloquence se moque de l'éloquence et la vraie philosophie se moque de la philosophie. Et j'ai fini par comprendre pourquoi Pascal dit ça. Pascal dit ça parce que, à la suite de Descartes, il fait la même expérience et la même découverte. Descartes découvre que pour être logique, il ne faut pas simplement être logique et raisonné. Il faut être présent par sa conscience à ce que l'on dit. Et ce n'est pas parce que l'on est présent à ce que l'on dit qu'on est logique et cohérent. Et bien Pascal va s'en servir pour la morale. La morale provient d'une expérience vivante de la morale que l'on vit en permanence. Et pas simplement d'un ordre moral avec ceux qui la surveillent. Il existe dans certains pays du monde un ministère du vice et de la vertu et qui organise une véritable police des mœurs en bastonnant ceux qui sont censés ne pas respecter la morale, la morale résidant dans le voile pour les femmes et dans les barbes pour les hommes. Et Pascal de montrer que ce n'est pas un ordre moral, celui des dévots, qui permet de faire qu'il y a de la morale, mais c'est qu'il y a des gens qui la vivent et qui la vivent constamment. C'est pour ça que la vraie morale se moque de l'ordre moral.
D'accord. C'est très clair, vous avez bien fait de spécifier. J'avais une autre question, oui, la voilà. Dans les vertus, parlez-moi du courage et puis de l'espérance, s'il vous plaît.
Alors, avant toute chose, je voudrais définir ce qu'on appelle par vertu. Dernièrement, en lisant le livre de Nicolas Steinhardt, Le journal de la félicité, Nicolas Steinhardt étant un prêtre orthodoxe qui a passé par les camps, j'ai lu cette parole formidable qui est pour Nicolas Steinhardt l'essence de sa pensée quand il dit « Le contraire du péché n'est pas la vertu, mais la liberté. » Eh bien, je pense que là, c'est une merveilleuse définition de la vertu, dans la mesure où il s'agit en profondeur de comprendre que si on va dans l'enfer des passions, c'est-à-dire de ce que Spinoza appelait la servitude, ce n'est pas parce qu'on n'a pas été bien obéissant et bien sage, c'est qu'on a manqué de liberté. Alors, qu'est-ce que c'est que la liberté ? La liberté, c'est ce qui se passe quand je suis vraiment moi parce que je fais des choses qui me passionnent. Et donc, je vais être rigoureux dans ma vie parce que je serai passionné dans ma vie et libre grâce à cette passion. Ben, je pense que c'est ça qui est très juste et qui va donner du sens au courage et du sens également à l'espérance. Alors, je rappelle les grandes vertus, hein, la tempérance, la prudence, la justice, l'espérance, la foi, la charité. Et bien évidemment, dans les passions positives, le courage. Alors, qu'est-ce que c'est que le courage ? On croit souvent que le courage consiste à défier l'adversité. Eh bien, on se trompe. On confond le courage avec la témérité. Je peux défier l'adversité parce que j'aime le risque, j'aime être téméraire, J'aime me regarder prendre des risques, j'aime me regarder être téméraire, j'aime défier l'adversité. C'est pas que, et souvent, c'est une manière de cacher ma peur. Vous savez, très souvent, les timides en font trop. Ce sont eux qui font des excès par timidité.
C'est vrai.
Et donc, c'est l'absence de timidité des grands timides. Bien, l'absence de courage véritable de ceux qui ont beaucoup de lâcheté et de peur intérieure réside dans la timidité. Et moi, je pense que le courage réside dans le fait de demeurer intelligent en toutes circonstances. Et donc, ce n'est pas qu'il défie l'adversité, c'est qu'il reste fidèle à l'intelligence qui est la leur. Et il ne se laisse pas déstabiliser par le monde extérieur ni par les passions. Alors, c'est très important par rapport à ces passions dont nous avons parlé lors d'une précédente émission. Nous avons parlé de la gourmandise, nous avons parlé de la luxure, nous avons parlé de la tristesse et de la colère. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a des vertus qui relèvent de la tempérance, qui relèvent de la prudence, qui relèvent du courage et de la justice, mais finalement, qui se rassemblent toutes dans cette idée selon laquelle il ne faut pas se laisser déstabiliser par le monde extérieur et il faut conserver son intelligence en toutes circonstances. Et finalement, le stage que j'ai fait un jour chez celui qui est devenu un de mes amis et qui était capitaine d'un régiment de pompiers, si vous voulez, à Paris, m'avait fait comprendre que les pompiers sont courageux, non pas parce qu'ils prennent des risques, mais parce qu'ils demeurent calmes en toutes circonstances. Ils évaluent toujours la situation dans laquelle ils sont et ils gardent cette capacité d'évaluation. Ce qui est remarquable chez eux, c'est le calme à travers la tempête. Et là, je pense qu'on a affaire vraiment à celui qui fait preuve de cœur, puisque c'est de cela que vient le courage. Le courage vient du cœur. Et le cœur, c'est ce que l'on trouve chez le guerrier, qui est capable d'être plus fort que la violence. Et il est capable de plus fort que la violence. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert la véritable force. Et la véritable force, c'est le calme qui vient de l'intelligence et qui fait qu'on reste toujours dans le plaisir de l'intelligence. Alors là, je pense que c'est très bien. Et c'est ce qui permet de faire l'expérience des passions, c'est-à-dire et de comprendre pourquoi Platon, comme Spinoza, ont dit la même chose, à savoir que la sagesse ne réside pas dans la maîtrise des passions. Et Spinoza termine l'éthique en disant « Ce n'est pas parce que nous maîtrisons nos passions que nous sommes vertueux, mais c'est parce que nous sommes dans la béatitude que nous sommes vertueux. » Donc, qu'est-ce que veut dire Platon ? Platon veut dire que je peux avoir un malin plaisir à vaincre mes passions. Et je peux vaincre mes passions par orgueil. On le voit, ce qui fascine le libertin chez Sade, c'est l'indifférence et être capable de n'avoir aucune émotion, y compris dans le rapport sexuel. Ce qui fait qu'il a un sentiment de toute puissance. Et le sadisme réside dans le plaisir de la domination et le plaisir de se regarder dominer à l'occasion de pratiques sexuelles. Eh bien, on voit bien ici qu'on peut maîtriser les passions, mais pour de très mauvaises raisons. Et Spinoza voit la même chose. Il voit le fait qu'on peut maîtriser les passions et ne pas être sage pour autant. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'ambiguïté de cette notion de maîtrise et derrière la maîtrise, finalement, la fascination pour le tyran. On peut, en se tyrannisant, finalement, donner l'impression qu'on est contre la tyrannie, puisqu'on n'est pas sur la tyrannie des autres, mais ce n'est pas parce qu'on est contre, on dépasse la tyrannie des autres, qu'on dépasse la tyrannie. On peut être un tyran à l'égard de soi-même. Vous savez, j'avais bien aimé un sujet qui était tombé au bac quand j'étais professeur en terminale, et je trouvais que c'était un sujet très intelligent qui disait est-ce qu'on est libre de se faire du mal ? Et j'avais répondu, on n'est pas libre de se faire du mal, c'est pas parce que je me fais du mal et en toute liberté que je ne fais pas du mal. Et je dirais que même c'est le pire des maux que l'on peut faire, c'est le mal que l'on se fait à soi-même.
Voilà, je crois. Je l'ai vu dans un de vos livres. Là.
Oui.
Je ne me souviens plus du titre tellement que j'ai lu. De...
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Le livre que vous m'avez donné en même temps.
Oui, oui.
Oui, c'est bien dit, c'est bien dit, c'est très subtil ce que vous dites.
Et je trouve ça très subtil. Et je trouve ça. Donc j'aime le courage qui est cette intelligence et qui ne rentre pas dans une compétition avec soi-même ou avec autrui. Il n'y a plus de compétition. Voilà. Et alors, vous m'avez demandé de parler de l'espérance, par rapport à la foi, l'espérance et la charité, qui sont les grandes vertus théologales. Moi, je vois la foi comme étant l'apothéose de la connaissance, la plus haute connaissance qui soit, et pas simplement dans le fait de croire. Je vois de la charité comme étant la finesse en acte, et je vois dans l'espérance le rapport au oui. C'est-à-dire, très souvent, on décrit la foi, l'espérance et la charité. La foi, je crois en Dieu. L'espérance, j'espère la résurrection. Et je vis dans l'amour. C'est-à-dire que c'est une vision, si vous voulez, juste, mais très limitée. Et qui ne va pas assez loin pour moi.
Oui.
Et j'aime aller plus loin en disant, mais attendez, il n'y a pas plus élevé que d'avoir la foi. C'est-à-dire, c'est l'adhésion totale à un plan supérieur de l'existence qui fait qu'il n'y a pas simplement l'existence sur un plan humain, mais l'existence sur un autre plan que j'appelle le plan céleste. Je vois la charité comme étant le fait de voir la vie divine partout, y compris dans les choses les plus petites et les plus délicates. Et là, je verrais un sens de l'amour pour les petits, pour les humbles, pour les faibles. Oui, bien sûr, du point de vue moral et social, mais à propos de toute chose. Et puis, entre les deux, je vois dans l'espérance le fait de surmonter le tragique. Et je crois que le contraire du tragique, qui considère que la violence est fatale, que le tragique est incontournable, eh bien, finalement, la condamnation de l'existence. Et je vois dans le oui absolu à l'existence le fait que rien n'est perdu. Personne n'est perdu a priori, rien n'est perdu. Et je trouve ça magnifique. Vous voyez ?
Moi, ce que je trouve magnifique, c'est ce que vous venez de dire.
Merci.
Je suis subjugué, je suis... Non, mais c'est vrai, c'est magnifique, absolument magnifique ce que vous dites. Parce que vous parlez naturellement, et c'est un tableau de lumière que vous faites.
Mais oui, c'est vrai.
Et
là, je dirais, c'est mon expérience de la vie orthodoxe.
Ça se voit, c'est une expérience.
Et en même temps de la philosophie et de grands, grands penseurs, à la fois ou comme Nietzsche ou comme Spinoza, où c'est exactement ça, c'est le oui absolu à la vie que je trouve extraordinaire. Et surtout, c'est tellement triste le tragique. C'est, on s'aperçoit que la vie est condamnée. Et alors, encore pire, quand certaines personnes sont condamnées a priori. Et je trouve magnifique de dire la vie n'est jamais condamnée. Et personne n'est condamné a priori, une fois pour toutes. Je trouve ça incroyable, renversant, vous voyez. Et là, je retrouve la théologie sous une autre forme, c'est-à-dire sous une forme très créatrice. Un très haut niveau d'existence, une existence d'une incroyable richesse partout, puis alors une ouverture du cœur de la vie par rapport à la vie totale. Alors là, on me demande d'adhérer à l'aspect céleste de l'existence, alors là, je le trouve là, vous voyez.
Moi, je le trouve en vous écoutant.
Mais écoutez, vous êtes...
Non, parce que, vous comprenez, vous êtes nourri des grands penseurs, hein, vous êtes quand même un érudit au niveau. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous en avez fait. Et puis vos propres pensées à côté, qui surgissent comme des diamants.
Absolument. Et je pense que c'est très important. Vous voyez, dans ma lecture qui est faite de l'Évangile et de la tradition chrétienne, j'entends ma voix intérieure qui me dit, écoute, l'important, c'est qu'est-ce que tu en fais, toi ?
Oui.
Mais... Et y a des gens qui pensent qu'il faut obéir à l'Évangile parce que c'est l'Évangile, n'en font rien. Et alors, je suis étonné parce qu'il y a des paroles extraordinaires et ce qu'ils disent est complètement plat. Mais je dis, est-ce que vous vous rendez compte que tout ce qui est dit, c'est Dieu qui parle à travers ce qui est dit et c'est énorme, c'est fantastique ce qui est dit. Par exemple, vous prenez la foi, mais vous n'en faites rien. La foi, c'est extraordinaire. Vous me dites, la foi,
c'est une force.
La foi, c'est sublime. Mais c'est sublimissime d'avoir la foi. C'est d'une profondeur. Et, entre autres, de penser qu'il y a un très, très haut niveau de l'existence. Et de dire, attendez, on va aller dans la vie supérieure. Et ceux qui me donnent raison, finalement, Hegel avait écrit un ouvrage qui s'appelait Foi et savoir, Glauben und Wissen, et dans lequel il réconciliait la foi et le savoir.
Oui. Et on c'est ce qu'il a voulu faire continuellement. Hein.
Mais on le voit même, Hegel. On voit bien, et là, la tradition chrétienne occidentale a toujours voulu réconcilier la foi et la raison, n'a jamais sacrifié la raison à la foi.
Non, hein, jamais.
Et donc ça, c'est très,
deux
très...
Deux dimensions.
C'est inséparable.
Et, deux dimensions.
Et pour des raisons très profondes. Alors, moi, je vois... c'est pas qu'il faut comprendre ce en quoi je crois et croire ce en quoi je comprends. C'est une manière faible de voir les choses. Je crois qu'il faut voir les choses à un niveau élevé. Quand je vais à un niveau supérieur, je ne peux le faire qu'avec toute mon intelligence et tout mon cœur. Et vous apercevez que quand le Christ rappelle la loi divine, il dit la première, c'est d'aimer Dieu avec toute son âme, tout son cœur et toute son intelligence.
Il le dit.
C'est-à-dire, on a besoin de toi avec la totalité de toi-même. Il n'y a pas le cœur ou l'intelligence, il y a tout. Voilà.
Mais je vous posais une question qui n'a rien à voir avec le livre, et qui me vient.
Oui.
Vous savez, la théologie, je voulais en faire il y a longtemps. Maintenant, c'est fini, j'y crois plus du tout.
Oui.
Bon, parce que c'est fait par les hommes. Oui. C'est très intellectuel, la théologie.
Oui. Hein? Ça peut l'être.
Ouais, très. Donc pour moi, ça ne me sert à rien. Mais vous, vous en avez fait quelque chose, parce que vous l'avez vu à travers le cœur. Vous n'êtes pas resté à...
Non.
Voilà, c'est bien différent. Donc vous pouvez enseigner la théologie.
Oui, mais je ne l'ai pas enseigné. Vous savez, j'ai inventé la théologie.
Oui,
c'est
ben
tout à fait différent.
C'est ce que je voulais dire et que je n'ai pas dit.
Ben, c'est
vous
tout
l'avez
à fait.
Inventé.
J'ai dû enseigner la théologie morale.
Voilà.
Et quand j'ai vu certains cours de théologie morale, j'ai été effrayé.
Voilà.
Ils prenaient les 10 commandements, qui ne s'appellent pas les 10 commandements, mais les 10 paroles.
Oui.
Et puis, ils nous expliquaient qu'il ne fallait pas tuer, pas voler, etc.
Voilà.
Mais je dis, mais
ça
c'est
va pas loin.
Vous croyez que c'est ça qui a été dit ? On n'a pas besoin de la Bible pour nous expliquer qu'il faut respecter les règles de la société.
Oui.
On n'a pas besoin du Christ pour nous dire qu'il faut être gentil et serviable. Alors, je me suis dit, la morale, si ce n'est pas génial, ça n'a aucun intérêt. Et donc, j'ai inventé quelque chose que j'ai appelé la théologie morale. J'ai complètement inventé.
Mais
d'accord. Je l'ai inventé comment ? Bien, j'ai pris chacun des mots et puis j'ai fait vivre les mots. Et donc, j'ai pris le mot Dieu, Christ, le mot esprit, le mot morale, la relation.
Ça m'étonne plus, c'est pour ça que moi qui n'aime pas la théologie, qui n'aime plus la théologie, j'aime la vôtre. Elle est inventée. Elle est inventée.
Et absolument.
Oui.
Je n'ai pas fait une compilation de ce que les pères ont dit.
Vous avez fait
retrouvé les pères à travers ce que j'ai inventé.
Quelque chose de personnel.
Voilà. De la même manière, l'évangile, c'est vous qui l'écrivez. Et il s'écrit en vous. Et lire l'évangile, c'est l'écrire avec le Christ. Mais ce n'est pas répéter à la lettre,
non,
comme on appelle les paroles de l'Évangile.
Oui.
Et on a dit, mais s'il n'y a personne pour vivre la parole, ben, il n'y a pas de parole. Et on peut dire, le paradoxe, tu as tué la parole parce que tu ne l'as pas vécue. Et je comprends Nicolas Steinhardt qui dit, mais quel est le grand problème ? Vous n'êtes pas libre, vous ne vivez pas. vous ne parlez pas. Et tout ce que vous dites est ennuyeux, c'est assommant. Et c'est ce qu'il dit aux pharisiens.
Ah oui, mais c'est vrai que c'est assommant. Hein.
Et il dit aux pharisiens, mais aux scribes, et à certains, parce qu'il y a d'excellents pharisiens, il y a d'excellents scribes,
oui.
Il y a d'excellents docteurs de la loi. Donc je me méfie oui. de dire les pharisiens.
Non, on ne peut pas généraliser.
Il y a eu des gens formidables oui. parmi les pharisiens. Mais de dire, faites attention, vous ne lisez pas. C'est assommant. Et tout d'un coup, je m'aperçois que quand on lit les évangiles à cette lecture, c'est extraordinaire. On fait des découvertes, mais faramineuses, prodigieuses.
Oui.
Le texte est incroyablement ouvert. Et vous prenez toutes les paroles des pères et tout, c'est absolument génial. Donc, c'est là qui est important. Vous voyez ? Et ça, donc il y a... Mais je peux vous dire, la théologie... c'est à nous de la créer, c'est à nous de l'inventer. Mmh. Alors, bien évidemment, ça ne plaira pas à certains éléments conservateurs, rigoristes, qui pensent que ce que j'appelle les gardiens du temple.
Les gardiens du temple
pensent qu'il faut respecter à la lettre et il faut que rien ne dépasse. Vous comprenez ?
Vous savez, j'en contrarie beaucoup. Hein. Même oui. des prêtres, je les attends à la sortie de l'église. Hein.
Oui. Non, mais vous comprenez.
Quand j'entends des choses, je veux dire, que le Christ n'aurait jamais pu prononcer de sa vie parce qu'il était l'amour et l'intelligence.
Et puis, il faut quand même expliquer qu'à un moment, même dans les évangiles, je pense qu'il y a des choses qui relèvent d'un montage. Je pense qu'il y a des choses.
Non, mais il y a beaucoup de choses auxquelles je ne crois pas du tout.
Qui
hein.
sont parfaitement justes et parfaitement profondes.
Exactement. On sait quand c'est le Christ qui a parlé.
Et puis, vous le sentez dans votre cœur.
Bien sûr, le Christ qui a parlé.
Et à un moment, il vous parle et vous le rencontrez. Donc, si vous voulez, alors il faut faire attention, il faut distinguer les préoccupations de l'Église comme administration. Avec une responsabilité sociale, donc il faut véritablement cadrer les choses. Je comprends très bien qu'il en faut. J'ai rien contre ça.
Non, enfin,
vous voyez. Mais moi, il y a autre chose qui me mobilise. Mais vous avez la véritable Église comme mystère génial, rassemblement autour de la parole.
Ah oui.
Avec quelque chose de...
La véritable, oui, ça c'est... Oui, oui.
Qui vient du cœur et de l'être et qui est magnifique.
Mais bien sûr, comme la communion entre tout le monde.
Voilà,
sans
mais,
distinction
mais,
de
oui,
personne.
Oui, non, c'est magnifique.
Mais autrement...
Voilà, bon, c'est comme
non,
ça.
Non, mais c'est vrai.
Il y a un moment, on est dans le monde des hommes, et puis, bon,
oui.
bah...
Oh, puis je vais vous dire, hein, il faut passer les examens pour les prêtres. Ils font passer les examens, je me demande comment ils font. Parce que vous en avez qui sont magnifiques, qui sont habités par l'amour, par l'esprit, puis qui sont intelligents. Et d'autres qui sont bornés, qui arrivent, qui disent, au lieu de consoler les hommes, moi je leur dis, les prêtres qui n'ont pas le pouvoir de la consolation, qu'on les lâche chez eux.
Oui, mais
vous comprenez ce que je veux dire ?
L'Église, elle est obligée de composer avec ce qui existe pour faire en sorte que ça tourne, quoi. Donc on prend parfois, non pas ce qu'on veut, mais ce qu'on peut. Bon, bref.
Oui, ça c'est un autre sujet. Hein.
Oui.
C'est un autre sujet. Alors, parlez-moi. J'arrive plus à me relire. De la présence, voilà, j'arrive plus à me relire tellement que j'écris mal. Alors, parlez-moi de la présence dans le chapitre de l'esprit.
Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est au-delà des vertus et des passions, c'est la construction de la vie humaine. Et la construction de la vie humaine, je crois qu'elle passe par la Trinité, le ternaire, corps, âme, esprit, pour arriver vers la plénitude. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de partir de l'esprit pour aller sur le corps et à travers l'âme. Et là, je crois que c'est très important. C'est parce que cette vision des choses me paraît très orthodoxe. C'est de comprendre que les choses viennent du ciel et s'incarnent à l'intérieur du corps et non pas l'inverse. Il y a deux manières de voir la relation entre Dieu et l'homme. On peut considérer que la relation, c'est l'homme qui monte vers Dieu, ou bien Dieu qui descend vers l'homme. Attention à ne pas faire de la relation avec Dieu l'ascension de l'homme qui va vers Dieu. Pourquoi ? Ben parce que vous allez tout faire reposer sur l'effort de l'homme. Et finalement, il n'y a plus besoin de Dieu parce que l'effort de l'homme remplace Dieu. Et donc, en plus, vous allez sortir du corps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez créer un héroïsme chrétien où l'important est le dépassement de soi-même par le fait d'aller au-delà du corps. Et vous voyez, un jour, j'étais au monastère de l'Arbrel dans la banlieue de Lyon, merveilleux monastère dominicain, mais je n'aime pas du tout l'architecture de Le Corbusier. Et j'entendais une homélie et se terminant par l'idée que Dieu nous invite au dépassement de soi. Ça fonde l'héroïsme chrétien. Et l'héroïsme chrétien, c'est ce qui enterre le christianisme.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase ? Dieu veut le dépassement de soi ?
Non, ça n'existe pas. Je vois l'inverse. L'expérience que j'appelle orthodoxe consiste non pas à aller de l'homme à Dieu, mais de Dieu à l'homme.
C'est-à-dire ?
C'est autre chose. C'est tu te laisses habiter, puis tu vas voir.
Ah oui, d'accord.
Et là, on rentre dans la surprise. D'abord, ça demande beaucoup de rigueur pour laisser venir Dieu en soi. Et ensuite, c'est pas par ton effort que tu vas découvrir la vie divine. Tu vas voir. C'est par une surprise.
Mais il faut l'aimer, c'est en l'aimant.
C'est en l'aimant. Et puis, c'est en se laissant inspirer par ce qui vient du cœur, qui est une manière
d'accord.
de l'aimer. Eh bien, c'est la même chose du
Dieu
point de vue
cœur,
moral.
Dieu, c'est le cœur.
Oui, c'est l'inspiration qui vient d'en haut et qui embrasse tout. Et très souvent, vous voyez, à propos des problèmes qu'il y a dans le monde, je dis, écoutez, je n'ai pas la solution. Je vais vous dire une chose, vous non plus. Donc, à un moment, si vous voulez avoir une réponse, bien vous rentrez dans la vie pratique et puis vous faites inspirer. Et vous allez voir. Je n'ai pas la réponse, vous non plus, mais vivez, puis vous allez voir la réponse, vous allez la
recevoir. Qu'est-ce qu'ils vous répondent ?
Ils sont étonnés.
Voilà. Ils ne répondent rien, ils
mais
ouvrent les yeux.
Je remarque, qui est-ce qui pense ainsi, actuellement, d'une manière très compliquée et abstraite ? C'est tout simplement l'empirisme logique aux États-Unis.
Tout
d'un coup, il y a une critique qui a été faite de la philosophie spéculative et métaphysique pour avoir un empirisme logique. Je trouve ça très bien. Alors, revenons au problème. Qu'est-ce que c'est que la morale ? La morale, c'est une expérience géniale qui vient du ciel et qui aboutit à l'homme vivant incarné. Alors ça, c'est important. Pourquoi ? Pour faire vivre en nous ce qu'on peut appeler l'homme fondamental, l'homme vivant qui est l'homme transcendantal. Et là, c'est intéressant. J'ai bien aimé le livre de John Stone qui s'appelle « Jésus, l'enquête », dans lequel il fait une enquête savoir qui a écrit l'évangile de Jean, et dans lesquels il rappelle que la religion du Christ est celle de l'homme transcendantal tel qu'en part Eckhart Hausen.
Excusez-moi de vous couper. Rappelez quand même aux auditeurs ce qu'est l'homme transcendantal.
Alors, j'y viens.
D'accord.
Nous avons dans notre corps, il y a dans la vie, une vie qui fait vivre la vie, et qui est exprimé par saint Augustin quand il dit de Dieu, tu es la vie de la vie. Dans notre vie, il y a en nous un homme fondamental qui est l'homme de l'homme. Et l'homme de l'homme, il s'exprime par le corps du corps. Ce corps du corps, c'est ce qui s'exprime quand, voyant, vous voyez que vous voyez. Écoutant, vous entendez que vous écoutez. Respirant, vous respirez que vous respirez.
Il y a une
vous
sorte
goûtez,
de dédoublement.
Vous goûtez que vous goûtez et vous touchez que vous touchez. Et là, on a affaire à la vie fondamentale. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que tout ce que je viens de vous dire est dit par Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, où il dit, c'est presque du Jean Kélévitch, en disant, il y a en nous une force de vie. Cette force de vie s'exprime par un je ne sais quoi, Jean Kélévitch, qui fait que quand je marche, je sens que je marche. Quand je respire, je sens que je respire. Quand je touche, je sens que je touche. Là, on touche quoi ? On touche à tout ce que la phénoménologie a cherché, l'homme vraiment vivant, qui est vécu en lui par le vivant fondamental. Voilà. Et ça, c'est absolument passionnant, puisque là, nous avons affaire à l'expérience de la morale. Quand Pascal nous dit « rentrez en vous-même, vivez la morale », quand je vais vivre la morale, je vais faire vivre en moi l'homme transcendantal qui voit, qui entend, qui l'entend, qui goûte le goût.
Pourquoi vous appelez ça la morale ?
Parce que...
C'est une prise de conscience.
Ben c'est exactement ça.
Mais oui, mais qu'est-ce la que prise, ça voit avec la morale ?
Mais c'est la morale est véritable. Mais c'est exactement la
c'est
même
chose. C'est d'être conscient de ce qu'on vit, c'est tout ?
Mais, ah oui, mais c'est énorme. Ça paraît rien, mais c'est gigantesque. Toute la sagesse indienne a pour but d'arriver là. Toute la sagesse bouddhiste a pour but d'arriver là. Toute la sagesse chrétienne... Toute la sagesse.
Ça veut dire que vous dissociez pas la morale de la vie.
Mais absolument. Voilà. C'est-à-dire, vous avez la morale comme les règles dans lesquelles se reconnaît socialement une société à un moment, qu'on appelle la morale, c'est-à-dire le conformisme idéologique à une époque. Et puis, vous avez la force morale, la vie morale
si vous
en
dites
vous.
La force,
voyez
oui,
et vous avez la force morale. D'accord. Et alors là, vous avez en vous, non pas. Le conformisme social et les valeurs édictées par le conformisme social. Et donc, vous avez la libération de votre force de vie, Aristote, le je ne sais quoi, et qui permet de faire vivre, c'est-à-dire en vous, on n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin qu'on vous fasse la morale pour être dans la morale, vous écoutez de l'intérieur de vous-même ce qui vit. Et ce qui vit, bien évidemment, va parfois vous recadrer, et vous dire ça va pas, mais il y a aussi le bonheur, le plaisir, la béatitude, comme dit Spinoza. C'est-à-dire, je sens vivre autour de moi, à l'intérieur de moi, ce qu'il appelle la force, de, ce que Aristote appelle la force de vie, l'homme fondamental, et j'ai du plaisir à le retrouver. Mmh. Et je suis moral parce que je suis vivant et j'ai du plaisir à vivre. Je me force pas. Je suis libre.
Bon, d'accord.
Puisque vous aimez le plaisir, on y est. Voilà.
Oui, mais enfin, je vois pas. Qu'est-ce qui vient faire le mot moral là-dedans ? Bon. Personnellement, je vois pas.
Si vous appelez la morale, la recherche de la meilleure manière de vivre, qui va déboucher sur une éthique, c'est ça la morale. Pour vous, la morale, c'est le conformisme idéologique de ce qui est jugé moral et acceptable.
Je suis bergsonienne. Bon. Il y a bien une morale qui dépasse cela, mais c'est pas ce que je veux
vous
dire.
Vous avez la morale et la religion, et vous avez chez Bergson la morale. Close et la morale ouverte. Et vous avez la religion close et la religion
mais
ouverte.
Mais je sais, tout ça, c'est pas ça.
Oui,
c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous dites la force de vie, la force de vivre, tout ça, on l'a en soi, ou la vie, à 10 ans, je le savais, que la vie, c'était Dieu. J'avais 10 ans.
Très bien.
La vie, c'est Dieu. Il sortira de moi le jour où je vais mourir pour me faire face.
Eh bien.
Bon, mais le problème, il n'est pas là. Je le vois comme une force de vie. Mais je ne vois pas, à moins d'assimiler la morale à la vie...
Oui, j'assimile la morale à la vie.
Voilà. C'est pour ça qu'on a un petit écart. Mais j'ai compris dans quel sens vous le dites.
La morale et la
comme
vie.
Comme une force.
Et je trouve formidable de concevoir la vie morale, non pas comme l'effort d'un individu tout seul qui va se dépasser pour être un héros et qui... Et puis d'autre part,
j'ai compris, pour vous, c'est naturel.
L'inouï de l'existence qui rentre à l'intérieur de vous-même et qui fait vivre...
Mais c'est la vie que vous appelez morale.
Et qui fait vivre ce qu'on peut appeler ce principe auto-réfléchissant qui est le corps véritable.
Oui, voilà. Mais c'est la vie que vous appelez morale.
Oui, mais absolument.
Vous ne dissociez pas la morale
pas
de la vie.
Pas du tout, absolu.
Hein et même quand vous êtes dans le transcendantal.
Absolument.
Voilà.
Et donc... C'était cette morale que recherchait Nietzsche. C'est cette morale dont parle Bergson, dont vous venez
Nietzsche
de me parler.
Vous avez raison.
Et vous apercevez vous avez donc...
C'est une morale supérieure quand même.
Ah mais c'est une morale pure de la vie.
Oui.
Et de celui qui a écrit ce essai pour une morale sans obligation ni sanction. Ben, vous avez... dans cet essai, une morale où vous êtes guidé de l'intérieur par la vie.
C'est la morale du Christ et de Saint Jean aussi. Hein.
Mais oui, c'est exactement c'est ça.
Mais
oui,
moi, là, je ne mets pas le mot morale derrière.
Oui. Mais
c'est tout.
Et c'est une morale.
Je mettrai l'amour, l'intelligence,
c'est
les deux liés.
C'est ce que Pascal appelle la vraie morale.
Voilà.
Qui se
moque
de la morale. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a intéressé et c'est ça qui va permettre de comprendre. Alors, à partir de là, cette notion formidable qu'on peut appeler les trois notions dont,
oui.
Bien évidemment, j'aimerais parler avec vous.
Oui.
Et la première étant la présence.
Oui.
Qui caractérise l'esprit.
Voilà.
La deuxième,
oui.
Étant la tenue des pensées.
Oui.
Vous voyez.
Oui.
Et puis la troisième, on va le voir, les cinq sens.
Alors.
Et de s'apercevoir que nos meilleurs maîtres.
Voilà, parlez-en.
Sont donnés dans.
Oui.
Voilà. Alors, ce que je trouve très beau, c'est de comprendre ici ce qu'est l'expérience de l'esprit.
Oui.
L'esprit, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec vous, c'est ce que j'appelle l'intelligence géniale de la vie.
Hein. Cette définition me plaît beaucoup.
Et je trouve qu'il y a dans l'esprit l'ouverture de l'esprit, l'intelligence de l'esprit, la générosité de l'esprit, et également quelque chose en plus qui dépasse tout et qui est céleste. Qui fait que tout d'un coup, le monde se remplit d'intelligence, de générosité et de mystère génial. Et je pense qu'en nous, ça s'exprime par la présence. Qu'est-ce que c'est que la présence ? C'est ce qui se passe quand quelqu'un existe totalement au point d'être et d'être tellement qu'il rayonne par sa présence. Et là, on est devant le mystère de l'esprit, la beauté de l'esprit, dans la mesure où l'esprit est dans ce que vous faites et ce que vous êtes, le rayonnement de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Et il y a des moments où on apporte l'esprit parce que non seulement vous pensez et vous parlez, mais il y a un rayonnement dans la parole, et il y a un rayonnement dans, dans l'existence. Et dans ce que vous pensez. Là, c'est les grands esprits. Il y a des moments où alors l'esprit nous met directement en contact avec le ciel, mais ce qui est formidable dans la notion d'esprit, c'est que si on prend la Trinité, l'esprit, tout en étant le Père et le Fils, va au-delà du Père et du Fils et permet d'avoir une expérience divine totalement originale. C'est ça qui est très important. L'originalité, la nouveauté, l'esprit et la nouveauté.
Voyez. Vous liez l'esprit à l'Esprit Saint ?
Ah oui, tout à fait. Dans la mesure où l'un conduit à l'autre et l'autre révèle l'un.
Oui.
Et donc, oui, l'esprit, c'est en vous votre intelligence. Ensuite, vous avez le grand esprit. L'intelligence avec son ouverture et sa générosité. Puis parfois, vous avez quelque chose qui va encore plus loin. Et là, ça vient du ciel et c'est plus simplement humain et ça vient plus simplement de la terre. Donc là, on a affaire à quelque chose de tout à fait singulier. Et ce qui est très important, c'est d'apprendre à voir les choses à travers la présence et d'apprendre à vivre la présence. Parce que là, vous voyez, ça, vous me parlez de mon expérience.
Oui.
La présence, c'est quelque chose que je vis. Ou bien on est dans la présence, ou on n'y est pas. Et je trouve extrêmement intéressant de vivre en écoutant sa voix intérieure qui pose la question, est-ce que tu es présent ? Est-ce que tu es vraiment là ? Et vous voyez...
Vous parlez dans la présence, d'être dans le présent.
Et d'être dans
là,
le présent.
Là, vous parlez plus du Christ
ici,
avec nous.
Maintenant, ben, oui. C'est la même chose.
C'est la même chose.
C'est la même chose, c'est-à-dire... Et vous avez, Michel Henry a écrit tout un ouvrage qui s'appelle « C'est moi, la vérité ». Et il dit, l'expérience du Christ, c'est de dire, vous cherchez Dieu, eh bien, voilà, il est là, je suis là. Dieu est là, et toute la pensée d'Heidegger repose sur l'être là. Donc l'être là, ça peut désigner l'existence dans sa banalité, mais l'être là, ça peut signifier également le surgissement de l'apparition originaire à travers l'existence banale.
Comme une épiphanie.
Exactement. Et tout d'un coup, vous avez, dans le fait d'être là, une expérience de plénitude extrêmement forte et intense. Et donc, qu'est-ce qui caractérise l'expérience de la présence ? C'est tout d'un coup une communication de présence à présence, la vôtre, avec la présence de l'existence. Et ça permet de comprendre Kierkegaard et l'existentialisme. Qu'est-ce que dit Kierkegaard ? C'est l'existence qui nous apprend l'existence de Dieu. Et donc, il n'y a pas Dieu et l'existence d'un côté, et puis il y aurait quelque chose derrière l'existence qui serait Dieu et qui serait la cause de l'existence. Ce n'est pas que Dieu est la cause de l'existence, Dieu est existence et l'existence est Dieu. Et donc, et qu'est-ce qui permet de dire ça? Eh bien, si vous faites l'expérience de l'existence, vous allez découvrir à travers votre existence l'existence même de l'existence. Et c'est elle qui va vous enseigner l'expérience divine. Je trouve ça absolument génial.
Ah oui, mais Kierkegaard, c'est formidable. Hein.
Mais c'est absolument génial d'avoir pensé oui. cette liberté. Et c'est tellement intelligent. Et surtout, ça n'est pas mental. Je ne cherche pas une cause et une explication
non,
à ce
mental.
Que je vis. Je vis.
C'est la présence.
Et, c'est, et je vis la présence, je vis le fait de vivre, je vis la présence à la présence. Là, il y a l'ouverture sur quelque chose d'énorme. Voilà. Donc, c'est ça que j'aime dans cette expérience de présence et qui caractérise l'esprit. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous rayonnez,
oui.
ça rayonne, et tout d'un coup, le monde se remplit d'intelligence, de générosité, de quelque chose en plus.
Ben c'est bien parce que comme il n'y en a pas beaucoup quand même d'intelligence, de générosité dans ce moment, il y en a toujours, il y a toujours des êtres d'exception. Mais je veux dire, là, avec votre vision, vous restez stable et vous restez bien,
oui.
vous ne sombrez pas.
Oui.
Donc c'est magnifique. Non mais c'est vrai.
Et surtout, ne jamais se laisser déstabiliser.
Non, ça, mais c'est vous qui avez raison.
Et donc...
Mais vous êtes un exemple pour beaucoup de personnes. Hein.
Écoutez, je n'ai pas... Là, j'ai tant de progrès à faire que je n'ai pas le sentiment d'être un exemple.
Mais non, disons, mais vous l'êtes malgré vous. Quand vous parlez comme ça, vous l'êtes malgré vous.
Disons que...
Un exemple.
Comment expliquer? Si on peut encourager, fortifier par ses paroles, tant mieux. Tant mieux.
Mais je crois quand même, vous me dites, si je me trompe, hein, en plus c'est très indiscret ce que je dis, que quelque part derrière vous, je sens qu'il y a comme une mission.
Alors, vous êtes la troisième personne à me le dire. J'ai un ami qui m'a
vous
dit...
Vous prêchez...
T'as une mission. Une mission.
Bah parce que, attendez, il n'y a que vous que je connais comme grand intellectuel qui soit capable de prêcher, de tenir la... Vous voyez ce que je veux dire? La dragée haute à tous les abrutis. Il n'y a que vous.
Écoutez...
Parce que vous êtes un grand professeur de philosophie. Et moi, j'attendais un grand professeur qui puisse aller jusqu'au bout. Parce que les autres, avec leur athéisme à la noix, ils en restent au milieu du chemin.
Écoutez,
il y a que vous qui pouviez aller jusqu'au bout de la philosophie.
Écoutez, en tout cas, je sais une chose, c'est que j'ai ressenti comme une nécessité fondamentale de répondre au désespoir de l'époque,
oui, c'est
à la révolte, à la violence de l'époque, et de dire, écoutez, il faut absolument qu'on retrouve la dimension céleste de l'existence dont nous existons. Il faut retrouver le divin de l'existence.
Oui, mais c'est un professeur de philosophie d'un haut niveau qui parle comme ça.
Oui, oui. Mais
donc,
écoutez,
c'est très rare parce qu'il en fallait un.
Écoutez, en tout cas, j'ai écouté cette invitation qui me dit « Travaille, vas-y, et ne t'occupe pas du reste, ne t'occupe de rien, ne te regarde pas, avance, avance. » Alors, écoutez, je suis heureux si, effectivement, on peut renforcer le moral des troupes, si j'ose dire les choses ainsi, et si on peut réveiller la merveille de la passion que j'ai eue. C'est, je trouve ça tellement intéressant, tellement passionnant, tellement beau. Mais il n'y a pas une minute d'ennui, de tristesse.
Mais le Christ vous a donné à la fois l'intelligence et... L'âme élevée, c'est pas ce que je veux dire, la haute spiritualité, l'amour de lui. Bon, il vous a donné tout ça, il vous en servait magnifiquement.
Écoutez, je sens que... Et puis, vous voyez, il y a des choses... Il y a 50 ans, j'ai écouté un saint, le père Paizos, qui m'a dit « Viens le plus souvent au Mont Athos ». Et donc, j'y suis allé 40 fois. Et je me suis dit...
Mais je suis sûr que vous les aidez aussi.
Écoutez, en tout cas, je sais une chose, c'est que c'est comme s'il m'avait dit, vas-y, tu vas voir le bien que ça va te faire, tu vas voir la vie que tu vas avoir, je ne peux pas tout te dire maintenant, vas-y, te pose pas de questions. Voilà. Et actuellement, moi, ma vie est dédiée, si vous voulez, dédiée à cet appel intérieur et à cette manière tout à fait particulière de réunir l'orthodoxie et la philosophie
pour
inventer ce que j'appelle artisan-philosophe. C'est-à-dire ni philosophe, ni théologien.
Oui, je comprends.
Je suis artisan.
Pour vous, j'aurais jamais trouvé ce mot d'artisan. J'allais plus loin, moi. Mais je comprends ce que vous dites.
Mais ce que je veux dire...
Je comprends ce que vous dites.
Je crois qu'il faut être humble, il faut travailler. C'est difficile. On a beaucoup à apprendre. J'ai beaucoup à apprendre.
Mais humble, c'est quand même savoir la vérité.
Oui.
Je veux dire, c'est pas se diminuer. Je veux
non,
dire,
non,
vous savez
non,
très
non,
bien
non,
la force que vous avez.
Je ne vais pas me diminuer.
Et la hauteur.
Mais humble, au sens, il y a... On en est... Non, mais mon idée, c'est que les choses sont tellement extraordinaires que nous sommes au tout début d'une aventure. Et que il me revient de le dire haut et fort. Et si, on est là pour le bien commun. Moi, j'aime beaucoup le bien commun. Et j'aime ma manière de servir le bien commun avec ce type de lecture. Vous comprenez?
Oui,
un
je
type
comprends.
De lecture,
oui,
voilà.
C'est un destin.
Voilà.
Vous
donc,
étiez destiné.
Donc je vois... la morale.
Mais je voudrais bien vu prêtre aussi avec votre histoire.
Ah, surtout pas. Non. Je ne suis ni
alors,
prêtre.
Alors moine peut-être, non ?
Ni prêtre, ni moine.
Vous
je suis
tellement parlé
parfait.
De carême et de privation.
Non, pas de privation. C'est le bonheur, le bonheur de jeûner. C'est extrêmement agréable de jeûner.
On va laisser passer, pardon de vous couper, un bobino.
Très bien.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Formidable. Oh, on continue. Le bobino est passé. Alors, où en étions-nous? Oui, j'ai une autre question. Ah oui. Oui. Parlez-moi, s'il vous plaît, dans l'âme, c'était le chapitre dans l'âme, hein, de la tenue des pensées et de l'absurde.
Oui, je vais d'abord parler de l'absurde. Je trouve que l'absurde est une notion passionnante, parce que ce que j'aime, c'est le retournement qu'il y a dans l'absurde, et le retournement m'a toujours passionné, le paradoxe m'a toujours passionné. L'absurde, c'est ce qui se passe quand la vie n'a pas de sens, quand on ne comprend plus rien à ce qu'on vit, et qu'on a l'impression d'être, comme dirait Victor Hugo, foutu dehors, balancé dans l'existence et avoir l'impression de vivre dans une galère en se demandant ce qu'on vient faire dans cette galère. Impression bien résumée par Pascal qui dit « La vie humaine me fait penser à des naufragés sur une île déserte qui verraient leurs compagnons égorgés tous les jours, les uns après les autres. » Et donc, ils voyaient la vie abandonnée dans l'existence, tout le monde est voué à la mort, dans des circonstances de souffrance terribles, l'absurde et le fait de ne plus rien comprendre. Et ce que je trouve formidable, c'est de dire, mais est-ce que tu te rends compte que c'est la position la plus géniale qui soit dans la vie? Et c'est là où il y a le retournement de l'absurde. C'est-à-dire que l'absurde, c'est quoi? C'est de vivre pour vivre. Comme, vous voyez, à un moment, c'était un film de...
Oui, à Lelouch, non?
Non,
c'était pas Lelouch.
Bref, avant...
Bon, peu importe. Ouais.
Vivre pour vivre, un film. Et vivre pour rien. Mais vivre pour rien, c'est ce qu'on vit dans la beauté.
Oui.
C'est ce qu'on vit dans la passion, dans l'intelligence. C'est-à-dire la caractéristique du sens suprême de la vie, c'est que
une forme de luxe.
Le sens, la vie est à elle-même son propre sens.
Oui,
et elle n'a pas besoin qu'on lui donne du sens, c'est elle qui donne du sens à tout.
Oui,
et donc, quelle est
aussi,
l'expérience
hein.
de la vie? C'est de découvrir dans l'absence de sens de la vie, le sens suprême de la vie. Et tout d'un coup, d'avoir ce retournement par l'absurde. Et au fond, c'est le génie de Pascal, de Kierkegaard, avant que ce soit capté par l'athéisme existentialisme. Le premier existentialisme n'est pas athée, il est totalement christique. Et il est de faire l'expérience géniale de l'abandon, où tout d'un coup, au cœur de l'abandon, vous avez le côté le plus génial de l'existence qui se révèle. Et lorsque le Christ dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?», c'est bien de ce mystère de l'abandon dont il est question. C'est-à-dire qu'à un moment, on est devant le retournement le plus phénoménal auquel on puisse avoir affaire, et y compris pour notre vie, vous voyez. Et on le voit. Comment vous traversez une épreuve de la vie ? On traverse une épreuve de la vie en disant oui à cette épreuve. Et qu'est-ce que ça veut dire être oui à cette épreuve ? Ben, c'est sur le moment où, au lieu de la maudire, vous allez la bénir et vous allez dire « Mais ce que je vis maintenant, quoi qu'il arrive, c'est génial. Et de toute façon, c'est génial. » C'est ce qu'on a parlé des Tilsum. Elle
moi,
est
je
là.
Dirais pas. Jamais je dirais c'est génial, une épreuve. Je veux dire, quand mon frère est parti, j'aurais pas dit c'est génial.
C'est pas
j'ai
l'épreuve.
Fait confiance.
Non, c'est pas l'épreuve qui est géniale, c'est ce que vous allez vous dire à vous-même. C'est-à-dire, au lieu de subir, vous allez traverser. Et donc, à un moment...
Mais parce qu'on fait confiance au Christ, c'est tout. Pardon, là, je suis obligé de le couper pour arrêter.
Oui, non,
je
ne
vais pas dire c'est génial.
Mais non, mais comprenez ce que je veux dire. C'est une image. C'est une image, je vis, je dis oui, ce qu'il y a. Et je traverse cette expérience. L'expérience, pour moi, ce n'est pas simplement l'épreuve, c'est l'épreuve de l'absurde, l'absence du sens. L'absence de sens n'est pas forcément...
Mais pourquoi vous dites que c'est l'absence de sens ?
Parce
qu'il y a un sens, mais on ne le connaît pas.
Non, mais
on ne connaît pas le sens quand il y a une grande épreuve.
On dit la même chose. C'est-à-dire, il y a des moments où vous êtes devant l'absence de sens, vous pourriez subir l'absence de sens, et tout d'un coup, vous allez renverser l'absence de sens et trouver du sens, le fait même de vivre.
Pardon ?
Le fait même de vivre. Le fait même
Ah non, mais c'est pas ça du tout. C'est pas le fait de vivre. Là, vous parlez que pour vous. Vous voyez, faites attention. Hein.
On
peut être différent. C'est pas le fait de vivre. C'est le fait de vivre pour les autres à ce moment-là.
Non,
parce
c'est
que
le vraiment... fait même de vivre. C'est-à-dire que...
Non, mais je suis pas de votre avis.
Ben oui, moi non plus. Je suis pas de votre avis.
Non,
non plus, mais on parle pas de la même
chose. Ben si, une épreuve. Vous avez parlé d'épreuve.
Non, mais j'ai parlé à un moment, oui.
On parle de la même chose.
Dans l'expérience de l'épreuve... Vous dites, je traverse l'épreuve quoi qu'il arrive, et je la vis.
On est obligé.
C'est ça qui est formidable.
Ben moi, je la traverse avec le Christ, c'est tout.
Mais attendez,
je ne cherche même pas le sens.
Mais le Christ, c'est ça. C'est-à-dire, quand vous parlez d'accepter le fait même de l'existence et du Christ, c'est la même chose, on dit la même chose.
Mais, pas de la même manière.
Mais on ne l'exprime pas de la même manière, mais on exprime ici ce retournement de l'absurde. C'est-à-dire, quelque part, rien n'est plus absurde que la vie pour la vie, et rien n'est plus génial que la vie pour la vie. Et là, cette force est toujours disponible, et vous êtes dans le fait même de l'existence.
Mais Bertrand, dans une grande épreuve, on ne se fait pas de la philosophie. On se jette dans le Christ tout simplement, et c'est fini, on ne fait pas de philosophie.
Et vous vous jetez dans la vie. Il y a trois manières
non,
de dire.
Je me jette.
Vous pouvez parler. Vous pouvez parler du Christ, vous pouvez parler de la nécessité, vous parlez du fait même de vivre. C'est la même chose. C'est-à-dire la
caractère,
c'est la vie absolue qui s'exprime de trois manières.
Et
vous rentrez dans l'absolu de la vie d'une manière... Mais tous les jours, il y a des gens qui vivent ça. Mais ils ne savent pas qu'ils le vivent.
Bah, ils sont bien courageux.
Mais il y a beaucoup de gens qui sont
Il y a beaucoup
courageux.
De gens très courageux, même dans les athées. Hein, s'ils ne savent pas qu'ils le vivent, ils sont très courageux.
Il y a mais des gens partout, athées, croyants. Tous les jours, il y a des gens qui font face à l'existence et qui te disent
«
j'ai pas le choix ». Mais ils sont formidables. Voilà. Et je ne juge pas.
Et même les athées sont aussi formidables quand ils ont ce courage-là, qui pour moi n'est pas un courage, parce que la force serait donnée là-haut.
Et pour moi,
de là-haut.
Là, je ne vais pas commencer à dire même les athées en parlant des athées et des croyants. Là, c'est autre chose.
Justement, je suis comme vous, là, je dis comme vous.
Oui, mais tout
qu'on
à fait.
Qu'on soit chrétien ou athée,
non,
peu importe, il y a cette force qui vient d'en haut, qui donne le courage.
C'est la beauté même de l'existence
Juste.
Qui répond à l'existence.
Très vrai.
Nous sommes entièrement
c'est
d'accord.
C'est très, très vrai.
Et donc, je pense que c'est très important parce que ça entraîne aussi une deuxième chose, c'est la tenue intérieure. Et la tenue intérieure, c'est magnifique parce que, tout simplement... il suffit de se tenir dans les pensées, de tenir les pensées, pour tout d'un coup avoir une force énorme. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai de la force que je me tiens, c'est parce que je me tiens que j'ai de la force.
Oui, et là, ça, il faut que je le médite. Parce que là, c'est vrai, c'est très fort.
Et vous voyez,
je
trouve ça très fort.
Il faut que je médite là. Oui, c'est très fort.
Et là, il y a cette grande pensée de Hegel qui dit l'important, c'est de se tenir dans la pensée. C'est de se tenir dans la profondeur de la vie.
Il y a une forme d'obstination.
Et puis, hein, vous savez, également comme des militaires qui tenaient une position, la défendaient et qui étaient très forts.
Elle est bonne la parallèle. Hein. Alors, je vais vous poser une autre question encore.
Oui, oui.
Parlez-moi, s'il vous plaît, de la relation entre le corps et la morale.
Alors, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais j'y reviens. C'est-à-dire, le but, c'est de revenir à l'homme vivant et au corps vivant, qui est l'expression de l'homme vivant. Alors, il y a deux choses qui m'ont révélé le rapport entre le corps et la morale. C'est un passage de l'Évangile et un passage des Épîtres de saint Paul. Le Christ parle en parabole,
oui,
et les disciples viennent le voir et lui disent « Pourquoi tu leur parles en parabole ?»
Oui.
Et il leur dit « Je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne se convertissent pas. » Et il rajoute « Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. » Je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, le Christ lit la compréhension avec les oreilles et on s'aperçoit qu'on est intelligent parce qu'on a des oreilles, et des oreilles qui réfléchissent le fait d'avoir des oreilles. Et alors, ça voulait dire quoi ?
Eh oui, ça voulait dire quoi ? J'ai jamais très bien compris.
Mais ça veut dire que comprendre une parabole, c'est la vivre comme une poésie, et non pas chercher une leçon de morale. Et si j'écoute la poésie dans la parabole, elle va ouvrir mon cœur poétique. Je vais sentir ce que je vis, et en sentant que je vis, je vais entendre y avoir des vraies oreilles. Alors, et là, je découvrirai le sens qui vient de la poésie, et non pas de mon intellect ou bien du conformisme social.
Bertrand, je n'ai pas très bien compris pourquoi le Christ a dit ça.
Il a dit ça,
oui, pourquoi ?
Pour éduquer son entourage et l'éveiller, et qu'il sorte. Je suis de la léthargie dans laquelle il est. Je suis extrêmement étonné quand j'entends des homélies sur les paraboles. Elles sont toutes ratées. Pourquoi ? Parce qu'on fait une paraphrase des paraboles comme explication des paraboles. Et on n'a rien expliqué du tout.
Ah non, ça c'est vrai. Alors, il n'explique rien.
Dans toute parabole, vous avez quelque chose de caché. Et là, ça implique de réfléchir. Mais pour réfléchir, il faut ouvrir son cœur et être enseigné.
Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire quand même par dire « je fais ça pour que les autres ne comprennent rien » ?
Ben justement, pour qu'ils arrêtent de comprendre avec ce qu'ils appellent comprendre et qui n'est pas comprendre. C'est-à-dire qu'ils croient que je résume, par exemple, j'explique les paraboles, la parabole du semeur. Vous avez un semeur qui sème, et puis il y a la terre, la semence tombe le long du chemin, elle tombe dans les rocs, elle tombe dans les épis, et elle tombe dans le bon cœur. Alors, qu'est-ce que vous croyez ? Que le cœur, que le Christ a voulu dire qu'il faut ouvrir son cœur pour comprendre la parole de Dieu. Tout le monde entend ça, on a entendu ça des dizaines de fois. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est aussi révolutionnaire que de l'eau sur les plumes d'un canard.
Oui.
Mais vous avez l'impression de dire, mais est-ce que vous avez réfléchi à ce que signifie la route, le roc, les épines, la bonne terre ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Vous voyez bien que ça se passe à un autre niveau. Et vous ne voyez pas que le Christ nous dit, vous voyez, il faut être attentif quand il y a la parole de Dieu. Mais c'est bien autre chose. Et donc, c'est pour ça. Et alors, qu'est-ce qui peut le permettre ? C'est de commencer à écouter poétiquement ce que veut dire la semence, ce que veut dire le chemin, ce que veut dire le roc, ce que veut dire les épines, ce que veut dire la bonne terre, ce que veut dire cet enchaînement, etc., etc., pour nous amener à quoi ? À découvrir quelque chose de formidable. C'est-à-dire que dans cette parabole, il est question de toutes les mutations par lesquelles va passer l'intelligence pour aller vers l'intelligence divine, et dans lesquelles il est important de faire l'expérience de tous ces niveaux de connaissance. Bien. Et donc, là, et donc c'est ça qui m'intéresse. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut faire vivre le corps transcendantal en nous pour pouvoir nous ouvrir à ça. C'est-à-dire, c'est avec notre poésie qu'on comprend les choses. Parce que dans la poésie, on est sensible à l'harmonie.
Ah oui, non, ça c'est vrai.
Et donc, on est. Donc, je vois, si vous voulez, la manière dont. Et vous apercevrez que partout, il y a ceux qui comprennent parce qu'ils rentrent dans leur corps, qu'ils sentent les choses. Je vis ça en fonction de quoi ? Ben, de la résurrection. Le Christ sur la croix, il est venu faire vivre le corps ressuscité. Et ce corps ressuscité, il est à l'intérieur de nous. Et c'est en nous, dans ce corps, qui est capable de sentir qu'il sent, que se trouve l'être qui comprend. C'est-à-dire, ça vous est arrivé, ma chère Isabelle, d'avoir affaire à des gens, ils ont beau avoir des oreilles qui n'entendent pas, ils ont beau avoir des yeux, ils ne voient pas, et vous vous dites, ils sont complètement bouchés.
Oui, non, complètement.
Vous voyez ? Et vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut pour les réveiller ? Et pour les réveiller, il faut arrêter de leur dire, bah, écoutez, vous n'avez aucun effort à faire, on va vous faire comprendre les mystères célestes sans aucun problème.
Oui, non, on ne peut pas faire ça.
Eh bien, c'est pour ça que réveiller les hommes, c'est leur dire, je vais vous montrer quelque chose qui va vous surprendre. Et en particulier, Denis l'Aréopagite, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, personne n'a jamais compris le Christ, et celui qui pense l'avoir compris n'a rien compris.
Oui, non, ça c'est évident. Hein.
Donc ça me paraît intelligent, vous comprenez. Il faut se réveiller, parce que tout le monde croit avoir compris le christianisme, tout le monde répète, ah non, ben alors le christianisme c'est très simple, c'est l'amour du prochain. Je vous signale, à propos de l'amour du prochain... L'amour du prochain, c'est pas aimer tout le monde, c'est aimer le Samaritain. C'est lui le prochain.
Oui, c'est ça, exactement. C'est pas aimer tout le monde.
J'ai toujours entendu.
Celui qui est sur notre route.
J'avais
raison.
Mais c'est celui aussi qui répare l'homme qui a été dévalisé, à qui on a volé son trésor spirituel.
Mais c'est notre prochain, en fait. C'est celui qu'on voit sur le chemin. Il ne faut pas se détourner.
Ah non, pas du tout. C'est le Samaritain qu'il faut aimer. Est-ce qu'on aime celui qui sauve ? C'est pas celui qui est par terre. C'est pas lui le prochain. Dans la parabole du Samaritain.
Ah non, mais j'ai pas dit que c'était celui qui était par terre. J'ai dit celui qu'on rencontre.
Oui, enfin, je sais pas si c'est de savoir à l'intérieur de vous-même. À l'intérieur de vous-même, vous avez un sauveur. À l'intérieur du monde, vous avez des véritables sauveurs. Est-ce qu'on aime les sauveurs ? C'est pas sûr. En général, on les tue. Et il faut faire attention. C'est pour ça que le Christ dit faites attention. Vos pères ont tué les prophètes et vous continuez à faire la même chose.
Oui, mais on rencontre toujours des sauveurs.
Oui, mais on les tue.
Quand on en a besoin.
Oui, mais on les tue.
Oui.
Et c'est ça le problème. Et de dire, et le sauveur, c'est pas simplement le sauveur dans la société et la réalité, c'est à l'intérieur de toi-même. Est-ce que tu es attentif à la parole qui sauve, tu vois ? Est-ce que tu vas tuer cette parole, voyez ? Donc, c'est ça qui m'intéresse énormément. Et je m'aperçois que là, on fait vivre quelque chose de moral. Hein. C'est-à-dire quelque chose qui est exigeant.
On va terminer quand même, puisque c'est à 5 heures. Oui. On arrête à 17 heures.
5 heures, Paris s'éveille.
Voilà. On va terminer par une question précise.
Oui.
Quel était votre but en profondeur en écrivant ce riche livre ?
Écoute, mon but en profondeur était de répondre à mon éditeur qui allait me voir, qui allait me demander est-ce que tu as prévu quelque chose ? Et je suis arrivé vers lui et je me suis dit oui, j'ai prévu quelque chose. Je pense qu'il faudrait parler des vertus et parler de la morale. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? A commencé une véritable expérience, c'est-à-dire... juillet, août, septembre, octobre, pendant 4 mois, j'étais incapable d'écrire une ligne. J'ai pas rien compris.
Ah oui.
Et donc, mon but en profondeur a été de recevoir cette leçon. C'est-à-dire, mon but en profondeur m'a été donné. Tu croyais pouvoir parler de la morale et des vertus, tu as été incapable d'en parler. Et je remercie la vie de m'avoir fait comprendre la véritable profondeur. En fait, j'avais besoin d'être remis en question. J'avais besoin d'être retourné. J'avais besoin de la claque que m'a donnée Pascal. J'avais besoin de la claque que m'a donnée la morale et du réveil que ça m'a donné. C'est ça qui m'a intéressé. Et je pense que, au fond, mon but, il était là. Je cherchais quelque chose, je cherchais un maître. Et ça, ça a été formidable, parce qu'après, je suis allé au Mont Athos, et là, j'ai compris qu'il fallait prier au moins 5 fois par jour, avec rigueur, avec se tenir dans la prière, se tenir dans la pensée. Et là,
et
il y a quelque chose.
Ah
oui, oui, oui.
Où vous soyez.
Comme les musulmans et comme les bénédictins, où que je sois.
Et pourquoi 5 fois?
Parce que vous avez le matin, le cœur de la matinée,
c'est un
midi,
peu comme le monastère aussi.
Eh bien, c'est génial. Pourquoi? Pour la tenue des pensées et pour tout ce que je vous ai raconté sur la vie morale. Parce que là, on est dans la tenue. Et là, j'ai rencontré le maître. Mon but, c'était de rencontrer le maître intérieur. Tu voulais le rencontrer.
Alors là, c'est le Christ.
Oui, mais simplement à travers ce que j'appelle le maître intérieur. C'est-à-dire, ouais. Vous avez le Dieu vivant et vous avez l'homme vivant. Et vous avez la caractéristique du Christ, c'est d'être la médiation entre le Dieu vivant et l'homme vivant.
Mais c'est tout, depuis combien de temps vous faites ça, de prier 5 fois par
depuis
jour?
Depuis un an, pour le plus grand bénéfice et le grand bonheur. Et en plus, les bénédictins du monastère d'Ancalca m'ont beaucoup aidé.
Vous n'êtes pas oblat quand même?
Non, je ne suis pas du tout oblat, mais je suis allé là-bas. J'ai quand même enseigné pendant une semaine tout le monastère. Et après, j'ai compris qu'à un moment, il y avait cette exigence des 5 fois par jour. Et puis, j'ai admiré les musulmans en disant, mais eux aussi.
Oui, mais je les admire aussi. Hein.
Et je trouve ça formidable. Et j'ai vu qu'à un moment, j'avais besoin de rencontrer le maître intérieur qui guide et qui, avec qui je suis en dialogue toute la journée.
Mais moi, je suis en dialogue, mais sans faire... Je lui parle, comme dirait Thérèse de Lisieux.
Voilà. Mais
ah non, vous concentrez.
Chacun.
Vous concentrez, vous.
Chacun a sa méthode.
Ah là, c'est totalement vrai.
Et moi,
ce que vous dites est totalement vrai.
Et moi, ce que j'aime beaucoup, pour ça que j'aime beaucoup les Jeux Olympiques actuellement, les athlètes.
Vous voyez.
Et on appelait les moines les athlètes du saut.
Vous m'en avez parlé souvent.
Vous venez vite champion. Eh bien, j'en ai besoin. J'ai fait 15 marathons, donc je connais très bien ce que c'est que l'entraînement.
Oh, vous êtes un grand sportif, en fait.
25 ans d'escrime, 15 marathons.
Vous continuez de
Écoutez, non, j'ai
sport,
arrêté parce que j'ai beaucoup voyagé. Et, donc, et puis ma salle de sport a fermé parce qu'elle a fait faillite.
Mais vous continuez
Je veux.
À faire du sport?
Oui, je veux retrouver. Et ce que j'aime, c'est cette discipline, c'est cette rigueur. J'adore
et vous aimez,
ça.
Vous aimez la discipline et la rigueur.
Ah oui. La tenue de la vie, et ça fait un bien fou.
Et moi, voilà. Enfin pour vous.
Et donc c'est
et moi, je vous trouve un très beau sportif de l'âme aussi.
Ah oui, oui, oui.
Vous êtes sportif dans tous les sens du mot.
Ah, j'aime beaucoup les athlètes, athlètes du souffle.
Et fort,
c'est ça qui m'intéresse.
Et fort.
Absolument.
Privation quelque part pour pouvoir se tenir.
Adepte de cette idée,
là là.
Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin.
Vous avez quand même des choses quand même d'un moine.
Non.
Parce que vous n'avez pas envie d'être resté enfermé.
Non. Mais oui, il y a une exigence, une rigueur.
Voilà.
Mais j'apprends.
Vous n'aimeriez pas leur vie quand vous y êtes.
Je vais dans des monastères. J'aime.
Vous vivez leur vie pendant quelques temps.
Non, moi, je suis là où je dois être.
Et ben alors,
c'est-à-dire dans la société, tu serais un mauvais moine et un mauvais prêtre.
D'accord,
Essaye
j'ai compris.
D'être à peu près un philosophe convenable, tu vois.
Oui, vous aimez la vie de la terre.
J'aime la vie, j'aime être dans la société aujourd'hui avec le monde des hommes et pour parler de ces choses-là.
Je comprends, chaque chose en son temps.
Voilà.
Bien au monastère, après on s'amuse, après on boira du champagne.
On boira du champagne, ça c'est
je comprends, je commence à comprendre.
Voilà. Et puis cette rigueur, ce rendez-vous avec quotidien.
Oui.
Il y a un rendez-vous avec le ciel, il y a un rendez-vous avec les hommes, il y a un rendez-vous avec tout.
Et voilà. Et avec moi bientôt.
Et avec vous bientôt.
Voilà. Il ne faut pas m'oublier. Hein.
Non, je ne vous oublierai pas.
Bon,
vous êtes inoubliable.
Écoutez, on va arrêter.
Merci, Isabelle.
Cher Bertrand, je suis heureuse d'avoir refait encore une émission avec vous, mais j'annonce déjà que nous en ferons une prochainement, à nouveau, avec un autre livre. Nous choisirons lequel, parce que j'aime vos livres. Il y en a un qui va paraître, n'est-ce pas,
oui,
dans un mois.
Et qui s'appellera « La plus belle manière de vivre », sous-titre « Journal d'un artisan philosophe ».
Ah, je sens encore que ça fera partie de mes livres préférés.
Voilà.
Bon, écoutez, je vous souhaite donc, jusque-là, des belles, très belles journées. Voilà. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous salue avec chaleur et je vous dis à bientôt.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Isabelle Prêtre, émission préenregistrée, le 19 février 2026, diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 22 mars, de midi à 13h30 et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. et accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.